Histoire de la recherche. La sixième saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique, proposée par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsay Santé. Au sein du groupe Ramsay, de nombreux médecins portent des projets de recherche clinique innovants dans différentes spécialités. Et pour en arriver là, il a fallu des décennies de recherche scientifique. Dans ce podcast, il nous raconte l'histoire de la recherche dans leur domaine. Tout au long de cette saison, nous vous avons fait découvrir l'histoire de la recherche dans différentes spécialités. Mais saviez-vous que la plupart de ces recherches ont débuté sans aucun cadre légal ? Et oui, il aura fallu attendre la fin des années 80 pour que la recherche soit légalisée et donc enfin encadrée légalement en France.
Je me suis alors intéressé à la législation de la recherche médicale sur l'homme en me penchant sur son histoire. Une histoire marquée de découvertes majeures, mais aussi de scandales très nombreux.
Professeur François Lemaire est l'ancien chef de service de réanimation de l'hôpital Henri Mondor. Il a été impliqué pendant de nombreuses années dans la direction de la recherche de l'APHP. Et dans le documentaire « Au nom de la science, la recherche sur l'homme », il retrace l'histoire de la législation sur la recherche dont il a été le témoin privilégié. D'abord comme médecin, puis comme membre du cabinet de l'ancienne ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Pour nous, aujourd'hui, il retrace une histoire éthique de la recherche médicale sur l'homme qui débute en 1946 lors d'un procès historique.
Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich, mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges.
C'est le procès de Nuremberg. C'est un des plus grands scandales médicaux de tous les temps. La recherche que les médecins nazis ont fait dans les camps sur des détenus. Et une recherche médicale absolument inacceptable. Les horreurs des médecins nazis ont été connues au cours de ce procès, elles ne l'étaient pas avant.
Pour le plus grand nombre, ce qu'on trouvait là-bas était de véritables sadiques. Et il y avait aussi un petit groupe, des hommes comme Mengele, qui y voyaient une occasion unique de faire avancer la cause de ce qu'ils considéraient comme une science raciale.
Ce procès a eu une importance majeure parce qu'il est allé bien au-delà de la simple dénonciation des crimes nazis. En effet, la défense des médecins allemands était très grande qualité. Les avocats des médecins nazis ont dit que leur défense, leur ligne de défense serait de dire que ce qu'ils avaient fait, les recherches qu'ils avaient fait, aussi inacceptables soient-elles, étaient menées dans tout le monde occidental de la même manière, en France, aux États-Unis, en Angleterre. Et ils ont cité les noms des grands médecins français, que nous vénérons tous, en indiquant qu'ils avaient inoculé des maladies infectieuses à des malades ou gens normaux. Yersin, le découvreur de la peste, Sergent, qui était le grand pasteurien fondateur de l'Institut Pasteur d'Alger, ils ont cité Charles Nicolle, prix Nobel en 1928, en disant que tous avaient fait ce qu'avaient fait les médecins nazis. Ce procès qui était censé juger les médecins nazis, les crimes nazis, pouvait devenir, à un moment donné, celui de toute la recherche.
Mais ce procès deviendra surtout celui qui produira les premiers grands principes qui vont encadrer la recherche.
Les quatre juges, à la fin du procès, ont édicté ce qui est devenu le code de Nuremberg, c'est-à-dire qu'ils ont produit les conditions qui rendaient une recherche médicale licite, ce qui n'avait jamais été fait avant.
Article 1. Le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel. Article 9. Le sujet humain doit être libre de mettre un terme à l'expérience.
Que jusqu'ici, seul le médecin décide de la recherche. Il décide si elle est bien, si elle n'est pas bien, ce qu'on va faire, quand elle commencera, quand elle s'arrêtera. Et là, c'est le point de vue du malade, du patient, du sujet d'expérience qui peut dire stop et se retirer. C'est aussi un des acquis majeurs de Nuremberg.
Sauf que ce code n'a alors aucun impact concret. Il faudra attendre 40 ans en France pour qu'une législation voie le jour, pour plusieurs raisons, selon professeur Lemaire.
Les médecins ont compris tout de suite que ce code-là, c'était bon pour les barbares. La dimension nazie, camp de la mort, camp d'extermination, a occulté tout le reste. Et les médecins ne s'assimilaient évidemment pas à des nazis. Et puis ensuite, les intérêts médicaux en jeu étaient considérables.
Autre date majeure dans l'histoire de la législation sur la recherche, 1964. Les chansons yéyé saturent les ondes, Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix, et dans le monde de la recherche, on assiste à la publication de la Déclaration d'Helsinki.
Elle a été rédigée par l'Association médicale mondiale, c'est-à-dire par des médecins. Et ça explique aussi qu'il n'y aura pas plus de législation, de sanctions normatives, qu'il y en a eu pour le code de Nuremberg. Parce que on n'en est pas du tout dans le monde de la législation, des règles. C'est un code de déontologie international. Et il va se consacrer à la recherche. Et il nuance un peu le code de Nuremberg.
Notamment sur la question du consentement des patients.
Les médecins savent qu'il y a un tas de patients qui ne peuvent pas consentir. Parce qu'ils sont trop malades, parce qu'ils ont des maladies cérébrales, parce qu'ils sont en choc, parce qu'on ne peut pas leur expliquer ce que c'est que la recherche et leur demander leur consentement et de les faire signer. La déclaration des Helsinki prévoit que dans ces cas-là, un représentant légal du patient devra signer à leur place. Ça, c'est majeur parce que ça ouvre la porte à la légalisation de la recherche non thérapeutique.
C'est justement dans cette déclaration que la distinction est faite entre la recherche non thérapeutique et thérapeutique.
On avait traduit en français par les recherches avec bénéfice individuel direct. Un médicament, c'est fait pour le bien du patient, très clairement. Ou recherche sans bénéfice individuel direct. Quand on recherche des mécanismes d'une maladie, ça ne bénéficie pas au patient. C'est utile pour la science, pour le progrès médical, mais ça ne bénéficie pas pour le patient. Et l'une est la recherche noble, la recherche thérapeutique, moins contrôlée. La recherche sans bénéfice direct, c'est une recherche qui est suspecte. En fait, cette recherche-là résonne camp de concentration, expérimentation des nazis. Et ça, ça va durer très longtemps, peut-être même encore aujourd'hui.
Dans les faits, cette déclaration non plus n'est pas appliquée. Elle est à peine connue par les médecins de l'époque, dont fait partie le professeur François Lemaire, alors jeune interne en 1966.
À ce moment-là, pour avoir une carrière universitaire, il faut publier, publish or perish. On n'aura aucune possibilité de devenir professeur, de rester à l'hôpital, d'être chef de service, si on n'a pas ces publications-là. Donc on fait de la recherche sur les malades. Cette recherche, elle n'est pas du tout clandestine, elle n'est pas cachée, mais on n'en parle pas à l'extérieur. C'est étrange. Et encore plus étrange, c'est que il n'y avait aucun regard de nos aînés, de nos mentors, mais aucun, jamais. C'est très étonnant, ça. À l'époque, on était convaincus d'être un bon docteur. Il faut voir qu'on est à un moment où la médecine est encore extrêmement paternaliste. On ne demande jamais le consentement aux soins, on n'explique pas ce qu'on fait. C'est idéologiquement défendu par nos pères, par nos mentors, par l'ordre des médecins.
Cette vision paternaliste du patient explique en partie que les médecins s'opposent à tout encadrement légal de la recherche. Mais ce ne sont pas les seuls à être frileux sur la question. Les politiques non plus ne veulent pas se saisir du sujet.
Légaliser la recherche, c'était légaliser forcément la recherche non thérapeutique. Et celle-ci, immédiatement, évoquait Nuremberg. Immédiatement. C'est-à-dire que ça, c'était l'expérimentation, et ça faisait très très peur, quoi. Et plusieurs fois, il y a eu des propositions de loi qui ont été proposées aux politiques, qui n'ont pas été soutenues.
Mais plusieurs scandales autour de la recherche en France vont changer la donne.
C'est un personnage assez étonnant qui est le professeur Alain Millau, qui était professeur d'anesthésie à Amiens.
Les aventures du professeur Alain Millau.
Journal Le Monde, février 1988.
Il avait promis de ne pas recommencer. Sanctionné il y a un an d'un blâme, il s'était engagé à ne plus prendre ses patients cliniquement morts pour des sujets d'expérience.
Très convaincu que pour la recherche, il fallait utiliser des patients en commun. Et il a rendu public ce qu'il faisait. Une première expérience où il avait fait une transfusion intra-osseuse. Parce qu'en traumatologie, quelquefois, quand vous avez des accidents graves, on ne peut pas perfuser les malades. Donc ce n'était pas du tout idiot, ce n'était pas du tout scandaleux. Mais simplement, il a fait ça sur un jeune garçon de 18 ans, qui était dans un coma profond, sans demander l'avis de ses parents. Alain Millau lui-même a raconté cette expérience dans un congrès médical. Ça a fait un premier scandale. Mais il le faisait délibérément. C'était un peu un côté provocateur, parce qu'il voulait lui faire changer les législations pour autoriser ces recherches-là. C'était pas du tout clandestin, il savait ce qu'il faisait.
Le professeur Alain Millau s'illustre également en marge d'un procès très médiatique des années 80.
Ça, c'est l'affaire de Poitiers.
Une opération chirurgicale bénigne tourne au drame au CHR de Poitiers. Erreur fatale ou crime, une jeune femme est décédée.
Patron d'anesthésie était en bisbille avec un de ses assistants. Et le dit patron faisait une anesthésie et la patiente est morte. Et il a accusé son assistant en disant « il m'a tendu un piège, il a inversé les tuyaux du respirateur et elle est morte à cause de ça ».
ça qui est extrêmement curieux, c'est cette espèce de réaction de défense de l'hôpital.
Maître Henri Leclerc, avocat des deux assistants accusés.
Pour, dans cette affaire, mettre en cause des médecins et pour dégager totalement un chef de service qui avait porté les accusations.
Donc jusque-là, on est loin de la recherche, mais quand un patient meurt asphyxié, ce qui aurait été le cas si on lui avait inversé les tuyaux et qu'on l'a ventilé avec un mélange gazeux sans oxygène, il est censé devenir tout noir. On appelle ça la cyanose. Or, l'infirmière qui était là et le patron lui-même ont dit qu'il n'y avait pas de cyanose. Et ça, ça a fait tiquer les experts puis avocats de la défense, de l'assistant, en disant « mais c'est pas du tout ça, il n'y a pas eu d'inversion de tuyau, c'est un accident d'anesthésie qui arrive et qu'il n'a pas su rattraper ». Pendant que le procès avait lieu à Poitiers, le professeur Millot à Amiens a voulu aider à la compréhension de ce qui s'était passé et a pris une autre de ses patientes en coma. Il l'a ventilée avec le mélange gazeux sans oxygène. Et il l'a filmée pour voir si elle venait ou non noire. Et il a envoyé la cassette au procès. Henri Leclerc, qui était le grand pénaliste qui défendait l'assistant, s'est indigné. Il dit, c'est une pièce qui n'a pas été déposée au procès, c'est scandaleux. Bon. Du coup, on n'a jamais vu la cassette, mais de nouveau, indignation, et cette fois-là, la ministre de la Santé de l'époque l'a suspendue. Chirac, qui était premier ministre de cohabitation à ce moment-là, on est en 86, a demandé au Conseil d'État de réfléchir à la question, faut-il ou non une législation de la recherche.
En parallèle de ces scandales, l'industrie pharmaceutique pousse pour la création d'une législation sur la recherche.
L'industrie avait besoin d'essais bien menés, bien conçus, qui leur permettent de franchir toutes les étapes de la mise sur le marché d'un médicament. Donc, un certain nombre de pharmacologues ont constitué une association et ils ont préparé un texte qui s'inspirait des bonnes conduites, tout ce qu'on devait faire, mais qui n'était pas une loi du tout à l'époque. Et ils ont fait un congrès au Sénat. Et puis, ils ont invité le professeur Hurier, qui a été très intéressé et qui s'est emparé du sujet et qui a fait cette loi.
Nous sommes alors en décembre 1988. Le Grand Bleu fascine des millions de spectateurs à travers le monde. François Mitterrand est réélu face à Jacques Chirac et une loi vient enfin encadrer la recherche sur l'homme. C'est la loi relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales, dite loi Hurier, du nom du sénateur qui l'a portée.
On retrouve les grands principes depuis Nuremberg, Helsinki, qui sont le consentement, la défense des populations vulnérables. Ce qui était aussi une nouveauté tout de même, c'était l'exigence d'un comité éthique, ou extérieur aux médecins, qui allait juger ou non de l'éthique de la recherche qui était proposée. C'est immédiatement mis en œuvre, sans un cri.
Cette loi va évoluer au fil des ans, à la marge, dès 1990 et en profondeur, d'abord en 2004.
Il y a eu donc la suppression de la distinction des recherches avec et sans bénéfice, qu'on a remplacée par la balance bénéfice-risque. Alors, on a aussi adapté, ça c'est très important, le consentement aux populations dites vulnérables. C'est les patients qui ne peuvent pas consentir du fait de leur maladie. Si on suivait, on respectait la loi à la lettre, la recherche, quelle qu'elle soit, sur tous les patients les plus graves, pensez les chocs, les détresses respiratoires, ces patients qui relèvent d'arrêt cardiaque, ne pouvaient pas faire de recherche puisqu'ils ne pouvaient pas consentir. Et c'était un débat très important.
François Lemaire a fait partie de ceux qui se sont battus pour que les représentants légaux de ce type de patients puissent consentir. Et il sera aussi à la manœuvre en 2012 pour la grande mise à jour de la loi Hurier. C'est aujourd'hui cette version de la loi qui encadre la recherche. Professeur Lemaire nous livre les grands principes les plus importants de son point de vue.
La séparation des soins de la recherche est très importante. Dans la tête du médecin-chercheur, il faut absolument qu'il sépare le soin et puis la recherche, où ce n'est pas le malade qui compte, c'est plutôt les grands groupes. Et le protocole, il n'est pas fait pour un malade, il est fait pour tous les malades. Voilà, ça c'est très important.
L'intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche impliquant la personne humaine,
article L1121-2 du Code de santé publique,
prime toujours sur les seuls intérêts de la science et de la société.
Ça, c'est crucial aussi, parce que le chercheur peut penser, et je me projette dans mon expérience personnelle, que ce qu'il fait est tellement important que lui, il va bien servir un peu, quoi. J'ai eu une ou deux expériences fortes qui m'ont ébranlé. Moi, la recherche que je faisais, c'était la recherche physiopathologique, les relations cœur-poumon, si vous voulez. et un des sujets qui était très important, qui l'est toujours d'ailleurs, était le sevrage des patients. Quand les patients, on les pense guéris, il y a un moment critique qui est, on va enlever le tube qui les faisait respirer, on va arrêter la respiration, et il faut qu'ils recommencent à respirer.
Doucement, doucement.
Certains échouent. Et quand ils échouent, il faut les rebrancher, comme on dit, et à ce moment, leur pronostic est très mauvais. Donc le sevrage est vraiment crucial. Et il y a des causes qu'on connaissait très bien. Et puis il y en a une que j'ai découverte, qui était le fait de supprimer la ventilation en modifiant le régime de pression intrathoracique pouvait conduire à une insuffisance cardiaque foudroyante. Et on a documenté ça, démontré ça, publié ça. Et pour faire ça, on a enregistré plusieurs de nos patients en enregistrant leur pression et les pressions cardiaques. Et en regardant les tracés, mais longtemps après, 3 mois après, quand on rédigeait l'article, je me suis aperçu que les patients étaient en train de suffoquer, d'étouffer, et qu'on ne l'avait pas vu. Alors, bien sûr, on les rebranchait, aucun n'est mort à ce moment-là, mais on les a mis dans un état de détresse et de panique pour avoir la preuve de cette complication-là, sans trop regarder ce qu'ils faisaient, quoi. Et ça m'a secoué pas mal, cette découverte-là.
Aucune recherche ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement libre et éclairé.
Article L1122-1-1 du Code de santé publique.
Lorsqu'il est impossible à la personne concernée d'exprimer son consentement par écrit, celui-ci peut être attesté par la personne de confiance.
Ça reste absolument majeur, majeur. Les médecins ont fait pas mal d'études pour dire que c'était pas si vrai que ça, en disant, regardez, un patient qui est malade, il n'est pas vraiment juge. Le vieux paternalisme n'est jamais bien loin.
D'autres grands principes encadrent aujourd'hui la recherche, comme l'importance du contrôle par des tiers, la production de savoir généralisable, des procédures adaptées aux risques ou encore la rigueur méthodologique. Et si le professeur Lemaire a consacré une immense partie de sa carrière à la recherche, mais aussi à son éthique, c'est pour une raison très simple.
C'est que la recherche, c'est exaltant, quelque chose d'extraordinaire. Une recherche qui aboutit à une publication, c'est comme un ballon d'or dans le football, vous voyez.
Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherches Cliniques sur le site de Ramsay Santé.